CFORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter CFORadio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 80 pays, et Charles Vatine, Sales Manager chez EPSA. Bonjour Damien, bonjour Charles.
Bonjour Richard.
Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Gagneux, CFO de SideTrade. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, vous avez grandi en Champagne, les pieds dans un vignoble. Ça nous plaît bien ici, nous. Mais chez vous, le fil rouge, ce n'est pas forcément le vin, c'est plutôt la technologie, je crois.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai grandi dans le Champagne. J'ai eu cette chance-là, entre guillemets, d'être un petit peu baigné dans le monde du Champagne. Mais effectivement, d'un point de vue plus professionnel, carrière plutôt dans la technologie. Technologie et croissance, les deux allant plutôt de pair, on va dire.
Depuis toujours, depuis très jeune ?
Depuis le début. Depuis le début, en fait. Hein, si on remonte à déjà maintenant, il y a quelques années, dès le début, je suis rentré en fait, chez EDS. Et chez EDS, c'était déjà dans la techno et la logique de croissance, entre guillemets.
Et justement, bah, chez EDS, vous entrez au moment, je crois, de la fusion avec GFI.
Absolument.
Et là, vous vous rendez compte que vous aimez la logique de création de valeur.
Ah oui, oui, c'est un petit peu un fil rouge, on va dire, au niveau de la finance. Hein, la création de valeur, je pense qu'elle s'exerce à différents niveaux, que ce soit aussi bien au niveau de la top line, dans les logiques de croissance interne, de croissance externe, dans les logiques d'efficacité opérationnelle, dans le côté d'arriver effectivement à dérouler au quotidien à ce niveau-là. Et puis bien sûr, dans le management du cash, dans le management de toutes ces logiques de croissance externe. Donc effectivement, chez EDS, c'était une première logique de création de valeur à ce niveau-là, on va dire.
Un
début de fil rouge, une très très bonne expérience.
5 ans chez Business Objects, 5 ans chez Euryware. Qu'est-ce qui vous fait changer en fait à chaque fois ce cycle de 5 ans?
Alors, il y a une logique de projet derrière. Hein. Business Objects, on va dire, c'est une super 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 époque. À un moment donné, c'est la révolution de l'analytique et du décisionnel, on va dire, fantastique fantastique période où Business Objects veut vraiment devenir le numéro 1 mondial incontesté, et du coup une expérience à la fois mêlant croissance interne extrêmement orientée, en plus très très business partner avec les opérations, mais aussi croissance externe avec notamment le rachat de Cartesis en France, intégration avec les problématiques d'intégration, avec des périmètres du coup qui changent, on va dire, très très rapidement. Je suis arrivé avec un périmètre d'une centaine de millions d'euros et on va dire 12 mois après, on était à 250 millions d'euros. Donc voilà, donc ça, c'était la logique très Business Object. Et puis Business Object a été vendu à SAP, on va dire fin d'une histoire, enfin au moins fin d'une histoire avant qu'elle ne continue au travers d'SAP. Donc nouveau projet qui avait un sens et qui est intéressant à remettre dans son contexte, on va dire, concernant Eryware, puisqu'on retourne là dans le nucléaire, mais dans la partie un peu techno du nucléaire. Dans les années 2008-2009, le nucléaire est en plein renouveau. On se demande même comment au niveau mondial on va faire face à la demande d'énergie vis-à-vis de la population grandissante. Je rentre dans ce contexte-là pour repositionner Eryware dans une logique de SS2I industrielle et surtout de suivre la croissance d'Areva à ce moment-là. Bon, la suite a montré que Fukushima et quelques éléments qui sont passés par là ont fait que la logique de croissance de Eryware s'est plutôt transformée, on va dire, dans à la fois une transformation de la société avant de la céder et du coup de réaliser la vente à Capgemini.
Et enfin, depuis 7 ans, vous êtes chez SideTrade. Alors, c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas SideTrade ?
Alors, SideTrade, on est un éditeur de logiciels, en fait, d'une plateforme sur l'order to cash. Donc, l'order to cash, c'est le cycle client de la commande jusqu'à l'encaissement du cash et qui, on va dire, grâce à l'intelligence artificielle, permet de fluidifier, d'optimiser, d'accélérer la génération de cash, de telle sorte que vos clients vous payent plus rapidement. Donc ça veut dire un DSO qui s'améliore, ça veut dire des bad debts qui diminuent aussi, ça veut dire des équipes qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus productives, et puis à la fin, ça veut dire une relation financière qui devient augmentée avec ses clients.
Combien de salariés ?
Aujourd'hui, 260 salariés à peu près.
Charles ?
Oui, on dit que la crise Covid a été globalement bénéfique pour le secteur de l'édition de logiciels, mais pas de manière, on va dire, égale dans tous les univers. Je pense notamment au télétravail qui a favorisé les outils collaboratifs. Je voulais savoir quel avait été l'impact de cette période pour SideTrade, et est-ce que c'est une raison de sa bonne santé aujourd'hui ?
Alors, il y a peut-être plusieurs questions dans votre question.
Oui, il triche.
Peut-être plusieurs questions. La première, comment ça s'est passé peut-être chez SideTrade ? Alors, on va dire qu'on avait, on s'est rendu compte en fait qu'on était relativement bien préparé pour ce type de circonstances finalement. à la fois effectivement dans l'utilisation d'outils, que ce soit les Teams, le fait d'avoir un système d'information qui soit basé que sur des solutions SaaS partout, ce qui fait qu'on a pu basculer, même si quelque part le shutdown a été forcément violent, on a pu basculer en remote du jour au lendemain, sans entre guillemets, en continuant à faire fonctionner les opérations et que ça marche à ce niveau-là. Ça a été le premier point à ce niveau-là. Après, concernant, effectivement, vous avez complètement raison quand on vient sur les modèles du logiciel et principalement, et encore plus dans le domaine du SaaS en particulier, on s'est rendu compte que c'était le bon moment, entre guillemets, de tester la résilience de ce modèle-là. Et ça a montré, effectivement, enfin, notamment si on revient sur SiteTrade, hein, 90% de notre chiffre d'affaires, en fait, et de l'abonnement, donc du récurrent, avec des contrats qui sont sur plus de 3 ans, avec des taux de churn qui sont relativement élevés, donc ce qui ont permis d'avoir une très bonne visibilité. De conserver un chiffre d'affaires puisque l'année 2020 finalement est une année de forte croissance pour SiteTrade et donc du coup là de démontrer la résilience du modèle et donc du coup de se trouver effectivement dans une situation bien plus favorable par rapport à d'autres industries pour lesquelles c'était indéniablement plus compliqué.
C'est beau, merci. Donc quand on est en très forte croissance comme vous, qu'on a des ambitions telles que les vôtres, je parle du plan fusion 100 avec des objectifs 2025, j'ai lu ça, ce qui induit nécessairement peut-être des investissements, comment trouve-t-on en tant que CFO l'équilibre entre ambition et rentabilité à court moyen terme? En gros, est-ce que vous avez clé d'une croissance rentable?
Alors, c'est marrant ce que vous dites, parce qu'effectivement, ça a toujours été un peu notre credo d'arriver à construire quelque part un modèle qui soit une croissance légèrement rentable. Il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a une école américaine qui dit quand on veut faire de la forte croissance, vous investissez de manière massive, vous faites des pertes lourdes. Et puis, un jour, peut-être que tout ça deviendra profitable. Mais bon, en attendant, c'est pas forcément très très grave du moment qu'on va chercher la croissance à deux chiffres, voire plus. On a toujours cherché, c'est ça, trade, à avoir une croissance qui soit équilibré. Alors équilibré dans le sens effectivement, chercher forcément de la croissance à deux chiffres et aujourd'hui, au travers du plan Fusion 100, l'objectif est clairement d'avoir des croissances entre 20 et 25% par année, donc ce qui est quand même pas négligeable, qui s'appuie bien sûr sur l'Europe et puis demain sur des nouveaux territoires comme les US. Mais tout en gardant, avec, on va dire derrière, une politique d'investissement forte, très très forte, hein, en sales et marketing indéniablement, en capacité pour aller chercher cette croissance-là. Mais tout en conservant, on va dire, un équilibre, c'est-à-dire l'équilibre étant restant juste supérieur à zéro à ce niveau-là et n'allons pas chercher dans le rouge. Une des raisons aussi derrière cela, c'est qu'on est coté à Paris et qu'il y a peut-être une différence entre les investisseurs français, européens slash les investisseurs américains qui peut-être ont une vision un peu différente du duo croissance-rentabilité à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on a cherché jusqu'à maintenant à trouver un équilibre entre les deux.
Merci. Ma dernière question, je vais encore tricher, il y en a peut-être deux en une.
Dernière fois.
Ouais, vous êtes directeur financier et féru de technologie, on en parlait tout à l'heure. Vous travaillez donc au sein d'une structure qui propose aux entreprises d'augmenter les revenus en se basant sur l'IA. Et là, j'ai deux questions. Déjà, est-ce que vous utilisez votre solution en interne? Et ensuite, est-ce que vous ne seriez pas finalement le meilleur ambassadeur commercial pour SiteTrade?
Alors, est-ce qu'on l'utilise? Bien sûr qu'on l'utilise. Évidemment qu'on l'utilise. Ah, ça serait quand même, voilà, sans jeu de mots,
les cordonniers, vous savez,
on champagne, hein, entre guillemets. Mais non, c'est sûr que les cordonniers ne sont pas souvent les mieux chaussés. Mais bien sûr, on utilise notre solution en interne, indéniablement. On utilise la plateforme. On utilise aussi la partie de l'IA qui permet effectivement d'automatiser les relances en définissant les meilleurs scénarios au meilleur moment avec les meilleurs outils. Donc on l'utilise à ce niveau-là. Et effectivement, comme on est sur le cycle order to cash, qui est quand même un cycle assez financier, donc qui me concerne et qui nous concerne tous au quotidien, oui, ça peut m'arriver d'être un peu ambassadeur, effectivement, sur le sujet, indéniablement.
Je m'en doute, merci.
Allez,
beaucoup.
Damien.
Bonjour. Alors, ce qui m'intéresse pas mal, c'est que finalement, c'est une idée française, hein. C'est ça la base.
Absolument, c'est une société française créée en 2000 par Olivier Novas.
Ouais, parce que la notion cash is king, c'est vraiment un truc anglais à la base. Et là, ça y est, on voit beaucoup de structures qui s'orientent vraiment sur le cash. Et en ce moment, avec le Covid, c'était évidemment hyper important. Donc vous êtes plutôt pour le CFO augmenté aujourd'hui avec l'IA.
Absolument.
Hein, donc vous utilisez évidemment votre solution, mais qu'est-ce que vous utilisez en plus comme, vous utilisez beaucoup d'intelligence artificielle.
Alors,
aujourd'hui
on est principalement sur le cycle order to cash, comme on le disait, comme l'exemple l'exemple que je donnais, l'objectif va être aujourd'hui, va être demain d'aller sur les d'autres cycles, enfin en procure to pay aussi dans la partie RPA, toutes ces parties-là, de manière à effectivement aller encore plus vite. Mais effectivement, l'objectif derrière le CFO augmenté, c'est d'utiliser le RPA, l'IA, l'automatisation entre guillemets, de manière extrêmement marquée pour arriver à la fois à laisser du temps, enfin à pas se faire absorber par des tâches qui sont un peu chronophages et pas forcément très forte valeur ajoutée, et pouvoir se concentrer tout de suite vers un peu plus la partie prédictive et de ces modèles entre guillemets, notamment sur l'IA, qui permettent entre guillemets d'avoir un côté très prescription et très très utile à ce niveau-là.
D'accord. Je pense que c'était un peu dans votre argumentaire de vente, mais vous pensez ça fait non mais combien de temps vous faites gagner entre guillemets une équipe comptable, parce que l'objectif c'est ça, vous venez de le dire, mais entre guillemets dans les faits vous avez un retour d'expérience.
Je vais vous donner deux chiffres qui sont des chiffres absolument vraiment démontrables, rationnels, etc. Expliqués. Hein. Quand vous utilisez une solution comme SciTrade, donc sur la partie relance, le fait d'utiliser l'IA qui donc du coup par elle-même va définir quels sont les types de clients à relancer, comment les relancer, quand les relancer et selon quels médias les relancer, on arrive à une efficacité, on l'a mesurée, qui est 50% supérieure. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment on mesure l'efficacité? C'est dans les 5 jours qui suivent, est-ce que suivant votre action dans les 5 jours qui suivent, vous avez un paiement. Donc on est arrivé, on l'a démontré au travers des différents clients qui utilisent l'IA chez nous, à avoir une efficacité qui est supérieure de 50%.
C'est énorme.
Ce qui est quand même... Ouais, c'est beaucoup. Et le deuxième point qui est non négligeable aussi, quand on pense aux équipes, c'est qu'on a vu qu'on réduisait le nombre d'actions de 33%. Enfin, entre 30 et 33% à ce niveau-là. Ce qui veut dire que, donc, non seulement on a de l'efficacité, les équipes, quelque part, travaillent moins ou sont plus productives, sont plus efficaces par rapport au nombre d'actions dont elles ont besoin, entre guillemets, d'entreprendre pour arriver à ces paiements.
Ouais, en plus, vous avez sous-estimé un truc, c'est que même pour les experts comptables et les commissaires aux comptes, etc., qui posent toujours la question, bon, le client, il paye quand, hein, quand il y a un peu d'arriéré, ça va un peu simplifier la relation. Bon, très bien. Sur la croissance externe, la stratégie aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'acheter des parts de marché ou des technologies complémentaires?
Alors, quand on regarde un petit peu les différentes acquisitions qu'on a pu faire par le passé, c'était plutôt des briques technologiques qui venaient compléter la suite, entre guillemets. Et aujourd'hui, notre objectif, il est quand même principalement d'avoir un spectre sur l'ordre d'ortocage qui soit le plus complet, avec la plateforme qui soit la plus performante possible sur le sujet. Donc, on va dire que on vient juste d'acheter à Malto, hein, il y a quelques semaines, société française, mais principalement basée aux US et au Canada, sur une brique complémentaire, effectivement, qui est sur la partie e-order et e-invoice, qui complète complètement la plateforme sur cette partie-là. Donc, continuer dans ce domaine-là, il y a encore des briques qui manquent aujourd'hui et qui pourraient avoir du sens à ce niveau-là. Après, on n'est pas la logique de part de marché ou de part client aussi. C'est pas, on peut aussi regarder dans ce domaine-là.
D'accord. Alors, je vais peut-être vous poser une petite question piège.
La dernière. Ouais.
Vous parliez donc, on essaye de faire un peu de rentabilité avec tout ce qu'on investit, enfin avec votre activité, mais vous faites quand même beaucoup de R&D, j'imagine. Et ça, c'est quelque chose que vous avez tendance à activer beaucoup ou pas assez, ou moitié-moitié, parce que forcément, en termes de consommation de cash, ça, on le consomme immédiatement, mais en termes de charges, ça se répartit dans le temps. C'est pas tout à fait pareil.
Assez clair sur le sujet. Alors oui, on fait beaucoup de R&D et c'est indéniablement, la R&D c'est à peu près entre 20 et 22% de notre chiffre d'affaires par année, donc c'est plutôt pas mal et on est plutôt même dans une logique d'augmentation à ce niveau-là. Oui, on n'active pas. Enfin, on active une mini quote-part qui est proche de zéro. Le principe pour moi étant relativement simple là-dessus, ça ne sert à rien de faire de la cavalerie.
Ouais,
autant prendre les charges à 100% tout de suite et on avance comme ça plutôt que de commencer à décorréler là pour le coup la vision cash de la vision PNL à ce niveau-là.
Donc finalement, vous êtes sain en termes de cash, ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qu'on doit retenir. Très bien, merci.
Allez Philippe, pour terminer, côté vin, je crois que forcément, on ne peut pas faire autrement, vous aimez le champagne et pas n'importe lequel, je crois qu'on peut donner la marque.
Ah oui, d'accord, vous voulez parler d'AGPG, notre marque de champagne.
Voilà, pourquoi? Parce que quand vous dites notre, c'est...
Notre, parce que derrière AGPG, c'est avant tout, on va dire, une petite maison de champagne créée par ma grand-mère au siècle dernier, avec un vignoble sur la montagne de Reims en premier cru, voilà, et aujourd'hui, l'objectif, c'est de perpétuer la tradition en essayant de faire des petites cuvées, principalement millésimées, avec une certaine âme derrière, on va dire.
Et c'était l'occasion d'en parler. Merci Philippe, merci également à vous, Damien. Damien et Charles, fin de ce numéro de CFOradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, bien sûr, à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de CFORadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.